Gulliver, l'hebdomadaire des livres, des images et des idées. À la rencontre d'un écrivain, d'un photographe ou d'un plasticien pour mieux décrypter le monde.
Mon dessin ne représentait pas un chapeau, il représentait un serpent boa qui digérait un éléphant.
Une production Divergence FM proposée par Alain Vaquier et réalisée par Bruno Bertrand.
Eh bien bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons recevoir une écrivaine que nous avons déjà reçue et qui publie une sorte de variation ou de suite ou d'éléments différents de ce qu'elle avait publié auparavant. Et nous allons essayer d'entrer dans l'univers avec elle, dans l'univers de Julie Hugo. Bonjour Caroline Fabre-Rousseau.
Bonjour.
Alors, vous étiez venue nous parler d'un grand personnage que l'on a découvert, puisqu'on n'en connaissait pas bien l'existence, qui était donc native de Montferrier et qui est devenue la belle-sœur de Victor Hugo.
Voilà, c'était exactement, presque, le titre de cette biographie de Julie Duvidal de Montferrier, comtesse Hugo par son mariage, donc la belle-sœur de Victor H., voulait montrer qui se cachait derrière cette fonction familiale. Mmh. Et il se cachait une artiste peintre accomplie qui avait eu beaucoup de succès en son temps, qui a énormément de talent, dont un très beau tableau d'ailleurs est au
musée Fabre.
Maintenant, je suis très contente car il est dans la salle des Delacroix, donc qui était son ami, donc c'est vraiment très bien. Mm-hmm. Et effectivement, j'étais tombée en arrêt devant un de ses tableaux au musée Victor Hugo et j'avais foncé tout de suite, décidé d'écrire quelque chose sur elle et surtout cette relation qu'elle avait avec la famille Hugo qui était absolument passionnante.
Alors donc ça n'aurait pu être que cette biographie qui avait grand mérite de mettre l'accent sur ce personnage que très méconnu au fond. Et il se trouve que donc vous republiez au sujet donc de Julie Hugo. En lisant le titre, on se dit, c'est l'affaire Julie Hugo, on se dit, voilà une histoire qui va donc, on imagine un tribunal, on imagine une enquête, on imagine plein de choses. Et c'est un petit livre qui a pris la suite, d'une certaine façon, de la biographie, mais expliquez-nous comment.
Alors ça, c'est très amusant. En fait, je reçois un vrai mail d'un vrai lecteur, je ne l'ai pas inventé. Ça aurait pu être une fiction de dire je reçois un mail. Mais là, non, c'est un véritable mail. Je lui ai demandé la permission d'ailleurs de mettre une partie du mail dans la pièce. Et c'est un lecteur qui me suit depuis mes débuts, en détail. Donc, il décrit très longuement ce qu'il a compris du livre, ce qu'il pense de la couverture, enfin voilà. Et il termine en disant, en gros, je suis vraiment très mécontent de la fin, parce qu'elle s'est mariée, effectivement, au XIXe siècle, c'était vraiment un succès pour une femme. Mmh. Si on ne se mariait pas, c'était une catastrophe, bien sûr. Mais ça ne va pas du tout, parce qu'après son mariage, elle a moins peint, il aurait fallu qu'elle continue, qu'elle voie toujours de la croix, Ingres, qu'elle ait son atelier. Donc moi, je vous suggère, ou j'aimerais vraiment que vous écriviez une autre fin. Donc, j'avoue que je suis très étonnée par ce mail assez insolite. Et je réponds, écoutez, je vous remercie. Je comprends votre frustration, je la partage, mais il s'agit d'une biographie, c'est la vie. On ne choisit pas tout.
On ne refait pas l'histoire.
Et quand on est biographe, il faut quand même respecter les faits, les dates. Donc, je suis désolée, je ne pourrai pas. Et puis, un matin, je me suis réveillée en me disant, ah, mais j'ai une idée. En fait, le lecteur va, enfin, je vais inventer un kidnapping de l'auteur par un lecteur extrêmement têtu. Et il me fallait un kidnapping parce que j'avais dans l'idée, effectivement, de mettre en scène un procès, parce qu'un procès, c'est extrêmement théâtral, déjà. Et il fallait donc mon lecteur, un pénitent, soit jugé aux assises. Or, le kidnapping est passible des assises. Mmh. Alors, je commence à écrire un dialogue musclé entre le lecteur et l'auteur. Et ensuite, je m'aperçois avec horreur que je n'ai jamais étudié le droit, que j'avais pensé que ce serait très facile d'écrire cette petite pièce parce que j'avais déjà fait toutes mes recherches sur Julie Duvidal, Comtesse Hugo. Mais en fait, un procès, ça répond à des normes extrêmement strictes.
Une dramaturgie, même.
Mais c'est ça, voilà. Ouais. Et donc, me voilà plongée dans les minutes des procès, etc., visionnant des films qui sont à l'usage des jurés tirés au sort pour qu'ils sachent ce qui allait se passer, me renseignant, etc. Et du coup, j'ai trouvé ça passionnant parce que chaque fois que j'écris un livre, finalement, j'apprends une foule de choses. Les gens pensent que j'écris parce que je sais, mais en fait, non. J'écris parce que ça m'intéresse et j'apprends. Et donc, me voilà embarquée dans ce procès. Et je me suis dit, de toute façon, tout est permis. J'ai inventé un lecteur qui, à la base, était vrai, mais là, j'invente qu'il kidnappe l'auteur. Je vais m'amuser. Et un peu comme Alexis Michalik dans Le porteur d'histoire, une pièce que j'adore, ou bien là que j'ai vu récemment Edmond, je prends des libertés avec la chronologie, l'époque, l'histoire et les personnages. Voilà.
Alors donc, qu'on ne se méprenne pas, il y a donc bien effectivement kidnapping, mais ça c'est simplement le prétexte.
Oui.
En fait, c'est donc un récit dialogué. Ça peut devenir une pièce de théâtre, mais pour le moment c'est un peu un récit dialogué. Et dans le qui porte essentiellement sur le procès,
oui,
avec toute sa mise en scène, sa scénographie,
voilà.
Et on voit bien d'ailleurs au fur et à mesure que le livre se déroule, on voit bien ce qui pourrait en être fait sur une scène de théâtre. Et en plus, vous faites participer le spectateur.
Eh oui, alors ça, bon, je l'ai pas inventé. Hein. Robert Hossein l'avait fait avant moi. Et en fait, je tire au sort des jurés, hein, comme dans un vrai tribunal.
Ça se fait dans des assises, oui.
Voilà. Je tire au sort des habitués des tribunaux, Baudelaire et Flaubert, dont le procureur avait Ernest Pinard avait débusqué. L'horreur contre tout ce qui était d'un scandale aux bonnes mœurs. Donc, je m'amuse à tirer au sort ces deux-là. Et puis, il y a d'autres jurés, dont Berthe Morisot, par exemple, qui a beaucoup peint. Trois numéros de billets des spectateurs qui seront dans la salle, puisqu'ils vont décider ou non d'acquitter le kidnappeur lecteur.
Voilà, donc il y a deux fins possibles.
Il y a deux fins possibles, oui. Soit on acquitte, soit on condamne, le lecteur. Mais alors,
lourdement, en plus. Hein.
Ah, mais j'ai respecté ce qui est demandé, en prenant le moins lourd dans ce qui est requis.
Alors, c'est d'ailleurs amusant, ça, parce qu'on, en vous lisant, donc on apprend que si on relâche la personne kidnappée moins de 7 jours
c'est ça.
Avant la date fatidique.
Au bout de 7 jours, voilà.
Voilà, on bénéficie d'un allègement de condamnation.
Ça.
C'est quand même assez étonnant.
Voilà, donc c'est pareil. J'ai...
C'est la loi.
C'est la loi et ça m'arrangeait bien. Mais je ne le savais pas au départ. Hein. Et d'ailleurs, je me suis amusée là-dessus parce qu'en fait, il faut savoir si le lecteur a fait exprès ou pas de la relâcher au bout de 7 jours. Ça va entrer en ligne de compte pour juger de sa culpabilité.
Alors, ce lecteur qui est donc le personnage principal de ce petit livre.
On pense que c'est lui le personnage principal, mais non, c'est pas lui le personnage.
Alors,
principal.
On va dire que c'est le moteur principal.
Voilà.
C'est sa folie.
C'est son engagement, je dirais. Effectivement, qui frise un peu la folie, mais bon, on s'amuse. Hein,
Parce que quel lecteur, à la fin du livre, se dit « Ah non, cette fin, ça ne me convient pas, que l'auteur la change
?» Oui, effectivement, c'est quelqu'un qui va jusqu'au bout de, de ses idées. Mais Dieu merci, en réalité, je n'ai pas été kidnappée. Je rassure les auditeurs parce que parfois, les gens ne savent plus où ils en sont en écoutant en vol une émission de radio. Donc ce lecteur, effectivement, va être disséqué, puisque dans un tribunal, on parle énormément du coupable. Mmh. Donc, il y a des experts qui se penchent sur lui. On appelle les témoins. Ce qui a permis aussi que je convoque à la barre des témoins des gens de son époque ou de l'époque de Julie Hugo. Je vais avoir le plaisir de faire venir à la barre des témoins un ami de Julie Duvidal, Eugène Delacroix, Madame Vigée-Lebrun. Des gens que Julie Vidal connaissait. Adèle Hugo, bien sûr, sa belle-sœur.
Témoignage capital.
Très important, mais qui sera plutôt vers la fin. Parce que finalement, on va s'intéresser effectivement aux lecteurs, mais la vraie question, ça va être, mais finalement, il avait peut-être raison dans son raisonnement. Il est sympathique de vouloir qu'une femme, finalement, continue à peindre, travailler, gagner sa vie après son mariage. Et finalement, les témoins vont commencer à prendre fait et cause, ou non, pour le lecteur, donc contre Julie Hugo. Et la vraie question sera, Julie Hugo aurait-elle pu ou aurait-elle dû continuer à peindre? Alors évidemment, à son époque, ça n'était pas facile. Et ça, j'ai essayé de bien le faire comprendre aux spectateurs. C'est que finalement, Julie Duvidal, elle est née au moment où l'Académie des Beaux-Arts, enfin qui s'appelait l'Académie Royale de Peinture, était fermée aux femmes. Donc ensuite, ça va être à nouveau ouvert aux femmes à la fin du 19e siècle, ce qui fait qu'on verra d'un bon œil les femmes peintes. Donc, par exemple, Berthe Morisot, qui fait partie des jurés, a beaucoup peint. Et bon, je ne dis pas que c'était facile, hein, mais c'était moins difficile quand même. Hein. Mmh. Donc, Julie Duvidal, dans son époque, déjà avait bien de la volonté, du courage et du talent pour avoir fait la carrière qu'elle a faite avant de se marier. C'était déjà pas mal.
Mmh. Propos de Berthe Morisot, Monet disait d'elle que c'était le meilleur d'entre eux.
Ah oui.
La formule,
oui,
quand même, étonnante.
Oui.
Alors, je me suis dit que malgré tout, vous aviez, derrière cet écrit, vous aviez à peine dissimulé quand même un certain nombre de revendications féministes.
Ah ben non, je ne dissimule rien, parce que j'ai même fait venir une vraie féministe qui existe réellement et qui a accepté de faire un petit tour dans la pièce, enfin son avatar, Héloïse Duché, qui se revendique féministe en talons et qui a créé le collectif ou l'association Stop au harcèlement de rue. Mmh. Bon, c'était pour moi, enfin, j'ai un peu cherché et ça tombait à pic puisque...
En effet.
Je ne sais pas si je le dirais au lecteur, mais bon. Ça tombait à pic parce qu'effectivement, moi, ce qui m'intéressait, c'était de débattre un petit peu, effectivement, sur la place de la femme. Parce que, bon, le lecteur a réagi avec ses tripes du 21e siècle. Par rapport à une situation du 19e, donc ça ne pouvait pas coller. Mais en même temps, nous, on est déformés. Il y a des courants féministes assez différents dans la société. C'est pas facile de... Moi, j'aime pas qu'on me dise féministe, parce que c'est un terme qui est tellement galvaudé, qui est teinté de choses parfois un peu ridicules, alors qu'il y a eu des combats terribles. Enfin, les suffragettes, même quand on dit suffragettes, ça fait rire, alors que c'était très
de
grave.
Moins en moins,
quand même. Oui, maintenant, Dieu merci, on se met à mieux connaître le contexte, voir quel engagement terrible ça a été pour ces femmes-là. Mais enfin, il y a toujours eu un peu de moquerie, etc. Et même, par exemple, quand on disait le MLF, vous voyez, ça vous fait rire.
Non, c'est la façon dont vous le dites qui vous fait rire. Mais, pas le MLF en soi.
Mais en fait, moi, je voulais aussi montrer que être une femme qui réussit, entre guillemets, c'est pas si simple. Ça veut pas juste dire avoir fait comme un homme, avoir réussi, c'est ce que voulait mon lecteur, à peindre comme Delacroix, à avoir un atelier, etc. Parce qu'en fait, on est très différentes des hommes. Et moi, je le revendique. Et je voulais montrer aussi la part importante que Julie Duvidal avait consacrée à sa famille Et à travers
trois enfants.
Voilà, trois enfants, des moments pas faciles. Eh bien, c'est pas rien. C'est pas mineur, voilà. C'est pas mineur d'être aussi une maman, voilà. Donc c'est pour ça que je voulais un peu mélanger, faire s'affronter des opinions différentes sur ce qui est important dans la vie d'une femme.
Alors, il y a une chose qui est, dans cet esprit, intéressante, c'est que comme il y a des personnages historiques qui parlent, on se dit...
Je fais parler.
On se dit... On lit ça très attentivement parce qu'on se demande s'il ne va pas y avoir une appropriation de ce personnage historique à votre profit, mais et pas tellement en fait. Par exemple, Flaubert, il est assez juste, je trouve, votre Flaubert dans ses propos. Alors, est-ce que vous êtes allé chercher vous avez une documentation particulière ou c'est venu comme ça à partir de la seule connaissance de vos lectures?
Moi, j'aime beaucoup Flaubert. J'avais lu, en fait, comme tout le monde, au lycée, Madame Bovary, éducation sentimentale, etc. Mais j'ai, il y a 2 ans, j'avais lu la biographie de Louise Collet. Et puis je savais que ce bonhomme n'était pas facile quand même. Et ça m'amusait de montrer aujourd'hui comment Flaubert pourrait réagir, avec ce qu'il est. Donc c'est pour ça que c'est un ressort comique en fait. Mais effectivement, Flaubert. C'est le réalisme, mais...
D'ailleurs, il le dit, le réel reste le réel.
Voilà. Il n'est pas du tout d'accord avec Baudelaire.
Avec Baudelaire.
Je n'ai pas trouvé la réponse concernant la position de Flaubert vis-à-vis des femmes. Parce que finalement, il nous montre une Bovary calamiteuse. Mais en même temps, il fait une extraordinaire démonstration de l'absurdité, de la dangerosité de l'éducation des jeunes filles. Donc finalement, c'est aussi un discours en faveur des femmes, puisque Madame Bovary est le produit d'une éducation stupide. Et c'est toujours important, je veux dire, les femmes ne pourront être... avoir une place, la place qui leur revient dans la société, que si elles ont eu une éducation à la hauteur. Donc du coup, il a une position un peu contrastée, je dirais, à l'égard des femmes. Donc c'est pour ça que ça m'intéressait de le faire parler un peu, mais il ne parle pas beaucoup.
Non, mais suffisamment.
Mais par exemple, ça m'amusait parce que quand on est témoin, quand on est juré, on a le droit de poser des questions aux témoins. Il va poser des questions au lecteur, enfin, ou à l'accusé.
Et pas n'importe quelle question.
Voilà, c'était un petit clin d'œil, parce qu'effectivement, j'ai inventé au lecteur des événements des éléments familiaux qui peuvent expliquer ses engagements un peu féministes, etc. Il est très énervé parce que sa fille, finalement, est très classique et ne travaille pas, se marie. Et Flaubert lui demande un peu comment il l'a éduquée. Si elle travaille ou pas, mais en utilisant le langage 19e.
Oui. C'est d'ailleurs très intéressant, ces mélanges de langage. Il y a une espèce d'effet de choc un petit peu qui soutient la lecture.
Mais parce que c'est ça qui m'intéresse dans l'écriture, c'est l'épaisseur des mots. Parce qu'un mot aujourd'hui ne veut pas dire la même chose qu'il y a, employé le même au 19e, par exemple. Donc, par exemple, le mot lourd pour Baudelaire. Et aujourd'hui, lourd, relou. Il faut replacer ça dans le contexte. Et ça m'amuse énormément, moi, de jouer avec ça.
C'est vrai que c'est... Parce que c'est ce mot qui revient à plusieurs reprises. Ce relou avec le décalage historique. Il demande, mais c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire?
Oui.
Et c'est là qu'on prend la dimension du décalage et que, et que la présence de ces personnages historiques par rapport aux personnages actuel, enfin actuel.
Oui, oui, actuel. La rue sans relou existe. Je ne l'ai pas inventée. La rue sans relou, c'est quelque chose qui a été inventé par ce collectif animé par Héloïse Duché.
D'accord.
Donc, c'est vrai.
Tout est vrai.
Oui, oui.
Et
oui.
Tout est faux.
Tout est vrai, tout est faux. Mais en fait, si vous voulez, on parle avec des fantômes. Mmh. Mais moi, finalement, quand j'écris, de toute façon, je suis habitée par des fantômes. Je suis sûre que le fait d'avoir aimé Virginia Woolf ou Baudelaire fait que je suis intéressée et que j'écris d'une certaine manière. Donc, ça m'a amusé aussi de les faire venir. Ils ont fait un petit tour.
À la barre.
Voilà.
Ouais, c'est bien. Alors, un autre personnage historique qui est très intéressant, c'est Delacroix, parce que cette façon... au fond, il nous fait entrer un peu dans l'intimité de Julie Peintre, quoi.
Oui, parce qu'ils étaient amis. Donc, et en plus de la croix, il avait conscience que peindre, c'était un sacerdoce. Donc, ce n'était pas léger. Et si, finalement, il apporte de l'eau au moulin de Julie Duvidal, parce qu'il et ça, je l'ai lu dans les lettres qu'il a écrites, dans sa correspondance extrêmement fournie, lui, il a fait le choix entre se marier et peindre. Donc, il ne s'est pas marié. Ce qui fait qu'il était conscient du talent de Julie Duvidal. Enfin, il ne faut pas croire qu'ils étaient tout le temps amis et qu'ils se voyaient tout le temps. Hein, mais il considérait que c'était une bonne peintre et qu'elle comprenait ce qu'il peignait, ce qui est quand même important à ses débuts. Et donc, il comprend qu'une femme, une fois qu'elle a des enfants, le fasse à fond. Mmh. Voilà. Mmh. Et faire les deux lui paraît absolument impossible.
Alors, c'est un peu le tribunal de l'histoire, ce livre. Et donc, c'est cette mise en scène-là dont il est question. Alors, tout à l'heure, je disais, c'est un récit dialogué. Ça pourrait faire l'objet d'une représentation.
Ah, mais je le souhaite, oui.
Compte tenu même de l'issue, c'est-à-dire que les spectateurs doivent se déterminer à travers leur porte-parole quant à la fin. Est-ce que votre idée, c'est que peut-être le faire monter par une compagnie?
Alors, ça, c'est une autre paire de manches. Parce que...
De la lecture à la scène, ce n'est pas...
Oui,
il faut...
Voilà, alors on va voir, hein, je prends des contacts. Alors déjà, il y a une chose qui est très positive et quelque chose de très agréable pour moi, c'est que la maison Victor Hugo, qui avait fait une soirée de lancement pour la sortie de La belle-sœur de Victor H. l'année dernière, au mois d'avril, adossée à une exposition « Les Hugo, une famille d'artistes », proposé de faire encore une autre soirée, mais à l'automne, pour présenter cette pièce en faisant appel à des élèves du cours Florent à Paris pour lire des extraits. Donc ça, c'est déjà une belle soirée en perspective. À Montpellier, il y a aussi le cours Florent, il y a des... compagnie d'étudiants.
Conservatoire.
Voilà. Oui, alors bon, je ne sais pas. L'avantage de cette pièce, en fait, c'est que moi, je la verrais bien jouée par des étudiants en droit parce qu'ils réviseraient leurs cours en faisant dans les formes un simulacre de procès, mais tout à fait respectueux de ce qui se passe aux assises. C'est vrai que ça serait pas mal d'avoir des étudiants en droit qui se mettent à endosser la robe du président et de l'avocat général, etc. En fait, il y a beaucoup de personnages. Voilà, dans la pièce, c'est normal parce que dans un procès, il y a énormément de personnages. Donc c'est
plus pas... le public.
Voilà, enfin le public, il faut qu'il soit nombreux, bien sûr,
oui.
Il faut qu'il y ait plus de personnages dans le public que sur scène. Du coup, c'est plus facile à faire jouer, je pense, par déjà une troupe de bons amateurs éclairés et voir ce que ça peut donner.
Pourquoi pas dans un tribunal?
Oui, alors là, le décor serait tout trouvé et ça serait parfait, effectivement. Ça serait le plus simple.
des assises dans l'ancien tribunal de Montpellier est fort belle, tout en bois, avec beaucoup de, une épaisseur historique.
J'y pensais. Mais bon, pourquoi pas. Hein, maintenant, vous pouvez contacter la radio hein, si vous entendez. De toute façon, la pièce est drôle. Hein, mais elle peut être tout simplement lue aussi dans un premier temps. Hein.
C'est d'ailleurs ce que je voulais dire pour finir, c'est que en plus, on s'amuse beaucoup.
Bon, bah tant mieux.
Il n'y a rien de compassé, tout ça est très léger et c'est un véritable plaisir de passer d'une temporalité à l'autre. C'est un beau moment d'écriture, en tout cas de lecture pour le lecteur.
Merci.
Voilà, je rappelle donc le titre, l'affaire Julie Hugo. C'est dans la collection, alors je dis le nom de la collection parce que ce n'est pas innocent, d'une fiction, l'autre.
Ah oui, là c'est vraiment adapté.
Voilà, de Caroline Fabre-Rousseau et c'est aux éditions du Chèvrefeuille étoilé. Merci beaucoup.
Merci.
Gulliver, l'hebdomadaire des livres, des images et des idées. À la rencontre d'un écrivain, d'un photographe ou d'un plasticien pour mieux décrypter le monde.
Mon dessin ne représentait pas un chapeau, il représentait un serpent boa qui digérait un éléphant.
Une production Divergence FM proposée par Alain Vaquier et réalisée par Bruno Bertrand.